Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques, aujourd'hui David Mouret et Christian Chamagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis donc chroniqueur Benaouda Abdelhaim pour son tour du monde des études, et puis notre bibliothécaire Eva Jacot qui nous racontera la vie d'un trésorier payeur. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, mais on démarre tout de suite avec nos auteurs. Cette librairie de l'écho, nous allons la consacrer au grand mouvement tectonique de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale, en prenant la mesure des tendances lourdes et des logiques à l'œuvre en Russie, bien sûr, en Chine aussi, mais également en Afrique, le continent de tous les espoirs et, j'ai presque envie de dire, de tous les risques aussi. Pour nous guider dans ces voyages, deux invités. Sylvie Berman, bonjour.
Bonjour.
Sylvie, vous avez été ambassadeur de France à Pékin, à Moscou, à Londres, vous avez représenté la France à l'ONU, à l'Union européenne. Vous présidez le conseil d'administration de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et vous publiez Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate chez Talendier, Kako Nubukpo. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Kako, vous êtes commissaire chargé du département de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et vous publiez Une solution pour l'Afrique chez Odile Jacob. Sylvie Berman, on va commencer par la Chine. La Chine, c'est le fil rouge de votre carrière, parce que votre carrière, elle a cette particularité, c'est que vous avez été ambassadeur, on l'a dit, dans ces trois grands pays, mais ce sont des pays que vous avez fréquentés régulièrement au cours de votre carrière, et donc vous débutez quasiment votre carrière en Chine dans les années 70, sous Mao Tse-tung. Vous arrivez dans une Chine pauvre et communiste, vous la quittez, riche, et je ne sais pas s'il faut dire encore toujours communiste ou pas.
Oui, en tout cas pour la première partie, c'est le degré de pauvreté, de misère de la Chine est inimaginable aujourd'hui. Et un écrivain chinois, Yu Roy, disait que la Chine avait accompli en 30 ans ce que d'autres pays avaient accompli en 3 siècles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique et sûrement bientôt
la Chine des années 70 première. Que vous découvrez, c'est comment, vous êtes à la campagne, je crois.
Non, je suis à Pékin, mais Pékin ressemblait à la campagne, justement. C'était extrêmement pauvre, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas de tout à l'égout, c'était un vaste village. Et je me souviens surtout que c'était tellement pauvre qu'on enterrait les choux au début de l'hiver pour avoir de la nourriture pendant toute cette période-là.
Vous êtes nommé ambassadeur, vous quittez la Chine il y a à peu près 10 ans, hein. Comment vous mesurez le parcours, et notamment le parcours politique, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est encore un pays communiste, la Chine ?
Alors, je pense que c'est un pays, on dirait plutôt léniniste, en fait. Parce que léniniste, c'est un moyen de conquérir le pouvoir et de le conserver. Et c'est pas nécessairement communiste, en ce sens qu'il y a quand même un secteur privé, même si on accorde l'importance politique aux entreprises d'État. Mais c'est pas du tout la même société que j'ai connue, qui était véritablement communiste à l'époque. Il y a eu quand même une forme de démaoïsation. Mais c'est vrai que le système est plus idéologique qu'il l'a été à l'époque de Deng Xiaoping et de ses successeurs. Mais à un moment, il avait été dit qu'en réalité, il y avait China Inc., la grande entreprise, et que le PDG de cette entreprise de Chine était Xi Jinping, donc le secrétaire général du Parti communiste chinois. Et le terme de Parti communiste, il avait été décidé à un moment plus ou moins de le supprimer, du moins il y avait eu des débats, on se demandait si on allait l'appeler Parti socialiste, surtout à l'époque précédant Xi Jinping, puis pour des raisons historiques, il avait été conservé. Mais vous savez, le terme qui est employé, c'est socialisme de marcher aux couleurs de la Chine. Donc c'est un peu un oxymore, mais finalement les couleurs de la Chine permettent finalement une dialectique. Alors, et permettent de tout faire.
Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que, un peu comme votre destin personnel, d'ailleurs le destin de l'Union soviétique, de la Russie et de la Chine sont incroyablement mêlés finalement au cours de ces années, puisque vous quittez Pékin, votre poste d'ambassadeur en 2014. Vous passez à Londres, on y reviendra. Mais ensuite, vous êtes nommé ambassadeur à Moscou. Et là, vous, la Russie, vous l'avez découverte en tant que diplomate au milieu des années 80, pendant la PRS Troïka. Alors, vous découvrez un pays sans doute moins pauvre que la Chine, presque moins communiste aussi, j'ai envie de dire, à l'époque.
C'était l'époque des réformes qu'on a appelées effectivement la perestroïka, la reconstruction, la glasnost, la transparence. C'est une des périodes les plus intéressantes où il y avait des vrais débats sur l'avenir de l'Union soviétique. En réalité, Gorbatchev voulait réformer le système et le moderniser, mais pas faire exploser l'Union soviétique ni le système communiste. C'est une époque où tous les espoirs étaient permis, mais en même temps,
parce
les
que
magasins
Gorbatchev,
étaient vides. Quand
Gorbatchev
même.
Était sincère, en fait. Il pensait que le socialisme pouvait s'adapter et résoudre les problèmes de société auxquels était confrontée l'Union soviétique.
Oui, il est resté un communiste jusqu'à la fin. C'est son opposition avec Yeltsin, et il pensait moderniser, mais il a été très vite dépassé par les événements, et surtout il n'était pas soutenu en Union soviétique même, sauf par des intellectuels, les journalistes. Mais il était détesté déjà dans les années 80.
Et alors on comprend à quel point, pour les Chinois, la Russie de Gorbatchev a été un contre-exemple, un anti-modèle, surtout à ne pas suivre.
Oui, tout à fait. D'abord, il se trouve que Gorbatchev a fait une visite qui devait être celle de la réconciliation avec la Chine en mai 89, et que c'était les mouvements étudiants, et que les étudiants ont fait appel à Gorbatchev comme le grand démocrate. Ça a été une première humiliation pour la Chine. Et ensuite, l'explosion de l'Union soviétique, la dislocation, la disparition du Parti communiste a été un véritable traumatisme. Et en fait, Xi Jinping, qui a été directeur de l'école du parti, a fait étudier ce moment dans l'histoire de l'Union soviétique. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour éviter cela, c'est-à-dire l'éventuelle explosion de provinces actuellement, comme le Tibet, le Xinjiang ou éventuellement la Mongolie, et puis la perte de ou la disparition du Parti communiste.
Est-ce que Vladimir Poutine, qui avait réussi finalement à refaire de la Russie, qui restait un petit pays économique, un géant géopolitique, est-ce qu'il a tout perdu avec la guerre en Ukraine? Est-ce que la Russie va disparaître de l'échiquier géopolitique mondial? Est-ce que ce pays n'est pas encore plus mal en point aujourd'hui qu'au début des années 90, au moment des réformes qui avaient complètement déboussolé le pays?
Alors, les années 90, ça a été des années terribles. C'était les années de troubles, de pauvreté. Il y avait 2500% d'inflation. Les gens n'avaient rien à manger. Et donc, Poutine leur a apporté la stabilité. Et c'était l'époque, d'ailleurs, où le prix des hydrocarbures était très élevé. Donc, il y avait à la fois une forme de richesse et de stabilité. Il a remis la Russie au centre de l'échiquier mondial avec l'opération en Syrie, même si on peut la critiquer, donc dans ses relations avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, mais même avec le Japon, avec puis la Chine, qui est devenue un partenaire de plus en plus proche de la Russie. Il avait réussi tout ça jusqu'au 24 février, à l'aube, où finalement il a détruit tout ce qu'il avait mis en place. Et alors que la Russie était redevenait respectée, même crainte, Poutine a mis tout ça à bas, et effectivement la Russie...
Vous êtes convaincue, Sylvie Berman, que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, il n'y aurait pas eu l'invasion de l'Ukraine?
Oui, je suis à peu près convaincue, on ne peut jamais être convaincue à 100%. Mais c'est vrai qu'il s'est isolé complètement, il ne parlait plus à personne, il ne parlait plus aux libéraux, parce qu'il avait des contacts avant avec certains libéraux, il exerçait une forme d'arbitrage. Là, il a ressassé un certain nombre d'obsessions sur l'hostilité de l'OTAN, du monde extérieur, sur également le fait que l'Ukraine n'aurait pas dû exister. Et puis, il devait, en mai 2020, organiser la grande parade de la victoire du 75e anniversaire, où il avait invité Donald Trump, Emmanuel Macron, Xi Jinping et bien d'autres dirigeants. Donc, pour lui, c'était la consécration du rôle retrouvé de la Russie.
Et la Russie, qu'est-ce qui va en rester après cette guerre ?
Alors, il va y avoir une phase très difficile qui peut durer pendant des années. D'abord parce qu'il y a une rupture aujourd'hui avec le monde occidental et que, en fait, les intellectuels russes, mais même les oligarques, en fait, se sentaient profondément européens. Or, aujourd'hui, ils sont obligés de se rapprocher de la Chine et de se rapprocher de régimes autoritaires. Et puis, sur le plan économique, avec les sanctions, la Russie aura beaucoup perdu.
Vous avez représenté la France à l'ONU aussi, Sylvie Berman. On peut dire que vous avez assisté au déclin, finalement, du multilatéralisme, de l'ONU triomphant à l'ONU impuissant.
Oui, tout à fait. En réalité, l'ONU, c'est le reflet de la géopolitique mondiale. C'est-à-dire que avant la guerre froide, et j'avais été jeune stagiaire à l'époque, le Conseil de sécurité ne se réunissait jamais à cause du veto soviétique qui était systématique. Après la fin de la guerre froide, ça a été une période d'euphorie et d'âge d'or que j'ai connue, puisque j'étais à la mission permanente auprès des Nations Unies, où on créait des opérations de maintien de la paix. Mais il y a déjà eu les premiers échecs avec la Bosnie, avec le Rwanda, la Somalie. Mais aujourd'hui, on est revenu à une nouvelle guerre froide, en réalité. Et il y a des vétos russes, des vétos chinois. Et puis sur un autre sujet, il faut quand même le dire, c'est qu'il y avait un veto systématique américain depuis longtemps sur tout ce qui concernait le Moyen-Orient et mettait en cause Israël. Donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité est impuissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se tourne vers l'Assemblée générale. Mais l'Assemblée générale n'est pas résolutoire. Elle n'a pas une capacité à prendre des décisions.
Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de l'Europe, Sylvie Berman ?
Alors, l'Europe, c'est intéressant parce que c'est un peu un double mouvement. C'est-à-dire qu'au moment de la crise en Ukraine, elle s'est manifestée puisqu'elle a pu utiliser la facilité de paix pour apporter la contrepartie aux armes fournies à l'Ukraine sur le plan financier. Il y a une commission effectivement plus géopolitique, plus visible dans le monde, et l'Europe a joué véritablement un rôle. En matière de défense, il y a des projets, mais qui vont être lents à mettre en œuvre, parce qu'évidemment, avec la guerre en Ukraine, les Américains sont revenus en Europe, et leur tendance naturelle, puisqu'ils fournissent plus que d'autres, et de vouloir contrôler les Européens. Il y a une formule de notre ancien ministre de la Défense, Florence Parly, qui était de dire que l'article 5 de l'OTAN sur la défense collective, c'est pas l'article 35. C'est-à-dire qu'en fait, on n'augmente pas le pourcentage du budget de la défense simplement pour acheter des armes américaines. Mais pour un temps, ça risque d'être la tendance. Mais je crois que l'Europe peut aussi être une puissance d'équilibre dans le monde vis-à-vis de la Chine, sans être complètement alignée sur les États-Unis. Et puis, elle a un rôle à jouer aussi en Afrique, où malheureusement, elle ne l'a pas suffisamment joué.
Eh bien, l'Afrique, on va y venir, bien sûr. Alors, je ne résiste pas quand même à vous poser la question, puisque vous avez fréquenté de près tous les grands de ce monde depuis plusieurs années. Qui vous a particulièrement marqué, les personnages qui vous ont le plus impressionné? Vous étiez voisine de bureau avec Sergueï Lavrov, par exemple. Voilà, parmi tous ces gens, lesquels vous ont le plus marqué?
Sergueï Lavrov a été une star à l'ONU, au Conseil de sécurité, parce qu'il était particulièrement brillant. Donc il est arrivé en 94 jusqu'en 2004, jusqu'à ce qu'il prenne ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Et c'était un des meilleurs négociateurs qui veillait évidemment à défendre les intérêts de la Russie, mais qui en même temps était quand même prêt au compromis. Aujourd'hui, on le voit bien, il a totalement changé.
Xi Jinping, Vladimir Poutine.
Alors Xi Jinping était quelqu'un de d'assez impressionnant aussi, parce qu'il avait une véritable vision pour la Chine. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il souhaite rester au pouvoir plus de 10 ans. C'est-à-dire ce rêve chinois avec les deux centenaires, 2021, moyenne prospérité, 2049, une grande puissance. Et je l'ai vu quand il était vice-président avec des membres du MEDEF international, le comité France-Chine, et on avait le sentiment que c'était une période d'ouverture qui commençait et de modernisation. Et ça a été partagé par les Chinois aussi, et qui ont été évidemment déçus par la suite. Quant à Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est depuis 22 ans au pouvoir, qui donnait une impression de force réelle et qui voilà, mais qui, alors je sais pas comment qualifier les choses, mais le président de la République, quand il est rentré en avion de Moscou, a dit ce n'est pas le même que j'ai rencontré. Et moi je l'avais vu à plusieurs reprises avec lui, avec d'autres, mais aussi à Brégançon. Et effectivement, même si quand il parlait de l'Ukraine il était plus émotif que quand il parlait d'autres sujets, il n'était pas dans cet état de rage, mais c'est incontestable que c'est une très forte personnalité.
Direction l'Afrique, maintenant, Kako Nubukpo. Une solution pour l'Afrique. Kako, une nouvelle, j'ai envie de dire, un nouvel espoir pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut y croire cette fois-ci? Vous dites le défi de l'Afrique, il est considérable, c'est d'intégrer 2 milliards d'humains dans un contexte de faible productivité agricole, de quasi-inexistence de l'industrie et d'urbanisation accélérée. Mais est-ce que cette fois-ci, on peut être optimiste pour l'Afrique?
Moi, je crois que oui. Parce qu'on est dans une troisième phase d'une tripartition. Disons qu'il y a eu la période des indépendances, avec beaucoup de rêves, beaucoup de volontarisme, mais qui a échoué du fait de la mauvaise gouvernance. Donc, après 20 ans, on est tombé dans les périodes de l'ajustement structurel, avec le FMI et la Banque mondiale. Où, à mon avis, on a fait coïncider une logique gestionnaire avec un projet de société. Et ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. On a beaucoup privatisé, on a beaucoup libéralisé, mais on n'a pas expliqué aux gens quel était l'horizon. Et on rentre maintenant dans la troisième phase, c'est-à-dire la fin de l'ajustement structurel, et ce qu'on peut qualifier d'une phase plus pragmatique, où on se dit les choses de façon plus claire. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants, une population qui double tous les 25 ans. On sera plus de 2 milliards en 2050. Et le reste du monde est fermé. Il ne faut jamais oublier que l'Europe, au moment de sa gestion des transitions, a pu, entre 1850 et 1930, faire partir 60 millions de personnes hors d'Europe. C'est comme ça qu'elle a pu gérer ces transitions. Et là, l'Afrique n'a pas les moyens de faire la même chose. Du coup, le modèle africain va être un modèle qui va permettre de stabiliser la population et de lui donner à manger, mais sur place.
Alors, oui, c'est ça. Alors, en fait, vous avez une vision, vous, de ce nouveau modèle africain, ce que vous appelez l'Afrique en commun au pluriel.
Exactement.
Mais, alors, vous allez nous décrire ce que c'est, mais ça présuppose qu'on arrive, finalement, à coopérer. Que les différents pays arrivent à coopérer, qu'au sein des pays, les différentes composantes culturelles, intellectuelles de ces pays arrivent à coopérer. Et on se dit, mais ça va jamais marcher, c'est pas possible. Comment on va faire pour que tous ces gens puissent travailler ensemble?
Il y a un substrat africain, c'est la solidarité. La vie africaine, c'est une vie qui se mène en commun. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, c'est une vie qui est structurellement écologique. Ce qui fait que ce qui rend optimiste, c'est ce vers quoi le monde tend aujourd'hui. On a l'impression que l'Afrique l'avait compris depuis des siècles. C'est-à-dire l'idée d'une prospérité partagée, l'idée d'une durabilité écologique et l'idée, au fond, des communs, qui est l'idée de la délibération permanente, ce qu'on a appelé l'arbre à palabre. Et donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait voulu embarquer l'Afrique dans une forme de néolibéralisme dont elle n'a absolument pas les ressorts, mais qu'aujourd'hui, du fait de l'addition des crises, on revienne au fond à ce qui, à mon avis, est la substance de l'Afrique, c'est-à-dire une capacité à vivre en équilibre.
Et c'est ça qui vous rend optimiste, c'est les nouvelles règles du jeu économique et politique mondial résultant de la crise sanitaire, résultant de la guerre, qui ont montré un peu toutes les vulnérabilités provoquées par l'éclatement des chaînes de production mondiale. Et vous dites ça, ça change la donne quand même.
Bien sûr, parce que l'Afrique rend énormément de services écosystémiques. Je veux dire, un des poumons du monde, c'est quand même la forêt du Congo. On a également cette démographie. Il ne faut pas oublier que 40% des Africains ont moins de 15 ans. Ça veut dire que de manière tout à fait mécanique, ce qui va se jouer demain, c'est quand même la capacité de cette jeunesse africaine à embrasser le monde, mais de manière, comment dire, conviviale, quelque part. Et là où j'ai quand même de l'inquiétude, c'est qu'on voit beaucoup de choses pas terribles avec le djihadisme, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est le meilleur terreau de tous ces mouvements violents.
Alors, justement, par où on commence, voilà. C'est-à-dire comment on fait travailler tous ces dirigeants ensemble, comment on crée cette gouvernance finalement commune.
Oui, c'est ce que j'explique dans l'ouvrage. C'est le fait de comprendre que les États n'ont de sens que s'il y a une gouvernance locale fondée sur la coutume. Je donne l'exemple du foncier. On nous a embarqués vers des titres fonciers individuels, alors que traditionnellement, vous avez un droit foncier qui fait très bien la distinction entre la propriété, l'accès, l'usage. C'est-à-dire que toute cette richesse, il faut la remettre au cœur. Mais nous n'avons pas le choix, parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons de toute façon buter sur les limites. Un exemple simple, aujourd'hui, vous avez vu, le prix des intrants a été multiplié par 4. Quand je prends par exemple la potasse, qui valait $200 la tonne, il y a un an, aujourd'hui, c'est plus de $800 la tonne. Ça veut dire que les engrais chimiques en Afrique, ça ne marchera pas avec des paysans pauvres. Donc, on va être obligé de revenir à la fumure organique. Et donc, c'est un peu des contraintes économiques mondiales qui vont obliger les Africains à revenir à leur richesse propre. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est les accompagner. Les accompagner, et c'est là où toute la question de la gouvernance se pose.
Alors, d'ailleurs, pour amorcer le processus, vous, vous êtes favorable à ce que vous appelez un néo-protectionnisme africain, qui est un peu un protectionnisme listien, finalement, quelque part. Pour aller au début, finalement, les industries fragiles, il faut un peu les protéger.
Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est la terre de toutes les prédations. On parlait tout à l'heure des émergents, la Chine, la Russie, la Turquie. On voit bien que toutes ces puissances émergentes arrivent en Afrique et contestent quelque part la suprématie occidentale. Il faut protéger l'Afrique de tout ça, de tous ces appétits voraces, parce que si l'Afrique s'effondre, c'est le monde qui s'effondre avec. Or, on a des matières premières qu'on est seul à détenir. Et donc, si on ne régule pas tout ça, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que je parle d'un protectionnisme écologique. Parce que l'autre aspect de la dépendance africaine, c'est quand même consommer des biens et services fabriqués à 10 000 kilomètres. Il n'y a pas de sens qu'on achète du poulet fabriqué en Inde.
Mais Kako, comment vous gérez la convoitise dont parlait Sylvie Berman, de la Chine, des autres pays, de l'Europe, etc. Comment vous faites ?
C'est très simple. C'est la négociation, c'est la concertation, c'est le dialogue. Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Quand vous observez aujourd'hui la position africaine dans les conflits mondiaux, vous voyez qu'on revient à une forme de non-alignement, quelque part, une sorte de principe de précaution. Parce qu'au fond, il y a un proverbe africain qui dit « Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Et donc, je crois que les Africains ont bien compris qu'il fallait négocier avec chacune des puissances, mais avoir l'intelligence collective de retrouver un lien entre tout ce qu'on obtient des Chinois, des Russes, des Français, des Américains, pour que ça fasse sens. C'est pour ça que la question de la vision, elle est fondamentale. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on a du mal aujourd'hui avec la gouvernance des dirigeants africains à voir la vision.
Et vous dites bien, la solution africaine n'est pas qu'une solution pour l'Afrique.
Oui, c'est une solution pour le monde, parce que à partir du moment où les gens ne vont pas accepter de mourir en silence chez eux, si l'Afrique s'effondre, l'Europe va s'effondrer. Parce que on est à quelques centaines de kilomètres des rives européennes. Et on le voit déjà avec tous les drames de la Méditerranée. Et donc, il y a un enjeu, c'est la stabilité du monde se joue en partie en Afrique. Mais en même temps, l'avenir du monde peut se jouer en Afrique. Moi, je vois très bien que l'Afrique peut être une puissance agricole mondiale. On a 650 millions d'hectares non utilisés. Et même pas de forêts, hein, rien que des pâturages et des prairies que personne n'utilise. Et donc, il y a, à mon avis, un potentiel africain qui peut permettre au monde de s'en sortir.
Eh bien, c'est sur ce message optimiste que nous allons conclure cette première partie. Je rappelle vos deux livres, Sylvie Berman, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, et ce qu'elle nous a raconté, comment j'ai vu le monde changer. C'est publié chez Talendier. Et puis, Kako Nubukpo, une solution pour l'Afrique, du néo-protectionnisme au bien commun. Et c'est, comme d'habitude, avec Kako chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotteur, Eva Jaco, notre bibliothécaire du jour. Et puis tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, il est à ma droite aujourd'hui, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis, il n'est ni à ma gauche ni à ma droite parce qu'il n'est pas dans ce studio, eh ben oui, privé de carburant, c'est David Mouret. Bonjour David.
Bonjour Emmanuel.
David, professeur d'économie, qu'on aime bien accueillir régulièrement dans la librairie de l'écho. C'est quoi votre lycée, David ?
Le lycée Charles Chauve à Roissy-en-Brie.
Voilà, Charles Le Chauve à Roissy-en-Brie. Et donc, vous allez discuter tous les deux aujourd'hui de vos choix de livres. Et on commence avec le choix de Christian. Mais qu'est-ce que l'industrie ? Réponse Pierre Musso, Christian Chavagneux.
Tout petit livre de rien du tout, petit en format, petit en épaisseur, mais extrêmement riche. C'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui.
Ouais.
On commence par des chapitres assez pédagogiques, très généraux. Le mot industrie, d'où ça vient, l'étymologie. On s'aperçoit qu'il a pris plusieurs sens, qu'il faut attendre le 19e siècle pour que ça corresponde à ce qu'on appelle nous l'industrie, la production de biens industriels. Petit aussi chapitre sur où est-ce qu'on produisait, où est-ce qu'on produit ces biens industriels, dans les monastères d'abord, puis dans les manufactures, et puis dans les usines, et puis dans les multinationales aujourd'hui. Donc tout ça ramassé donne au lecteur, à la lectrice, en deux brefs chapitres, tous les repères qu'il faut pour bien savoir d'où vient le mot, comment ça s'est développé sur le plan économique. Et puis la partie toujours très pédagogique qui suit ensuite et que je trouve plus intéressante, c'est tous les débats qu'ont suscité en fait le développement industriel. Et vous apercevez que dès le XVIIe siècle, un grand intellectuel, Francis Bacon, défend absolument l'industrie parce que c'est ce qui va permettre de triompher de la nature. On est encore en ce XVIIe siècle sous les aléas de la conjoncture climatique, naturelle, etc. Et donc il nous dit, l'industrie, ça y est, c'est ce qui va nous permettre de triompher, de maîtriser la nature. Bien évidemment, les grands défenseurs de l'industrie, c'est les Saint-Simoniens du 19e siècle. Et là, vraiment, on a pléthore d'auteurs qui nous disent l'industrie, c'est quelque chose d'important parce que c'est une communauté, ça rassemble plein de monde, et c'est une communauté qui est régie par la rationalité et le progrès scientifique. Donc, ça ne peut être que du bien. Et puis, plus près de nous, on aura Raymond Aron qui va reprendre les thèses saint-simoniennes et les développer. Mais, dès le 18e siècle, Pierre Musso nous dit, attention, il y a déjà des critiques de l'industrie. Jean-Jacques Rousseau, notamment, qui est là, qui nous dit, cette opacité machinique, je reprends ces termes, mais technique, on ne sait pas trop où ça nous emmène. Donc, attention, il faut faire attention avec ce développement de l'industrie. Et puis, le 19e siècle, certes, les Saint-Simoniens qui vont encenser l'industrie, mais c'est aussi le siècle des grandes critiques, bien évidemment Karl Marx, l'exploitation qui se joue dans l'industrie. Charles Fourier qui dit, moi je suis d'accord avec les Saint-Simoniens, c'est une communauté, mais c'est une communauté extrêmement hiérarchisée, et moi je veux créer les utopies fourieristes, une communauté mais beaucoup moins hiérarchisée. Et puis là encore, si on se rapproche plus près de nous, Herbert Marcuse, la critique très très forte de la société industrielle, parce qu'on n'est plus dans la production industrielle économique, mais c'est devenu une société industrielle qui est marquée par la violence, parce que l'industrie, c'est aussi l'industrie de guerre, en plein 20e siècle, bien évidemment, pour quelqu'un comme Marcuse, c'est important, et aussi parce que l'industrie devient le cœur de tout. Tout se mesure par rapport au succès de l'industrie dans un pays. Il dit ça, c'est pas très bien. L'auteur termine en disant, il y a des limites naturelles maintenant à l'exploitation par l'industrie de la planète, et donc il va falloir arrêter, trouver d'autres solutions. Tout ça résumé en un tout petit livre, j'ai trouvé l'exercice remarquable.
David Mouret, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Christian Chavagneux?
Oui, d'une certaine manière. Alors je dois dire que quand j'ai vu arriver le livre qu'a choisi Christian, j'ai rigolé, je me suis dit, il s'embête pas Christian Chavagneux, il faut un petit livre. Et puis après, je me suis dit, j'aurais plus de facilité à lire, et effectivement, il l'a très bien dit, quand vous prenez ce petit livre en main et que vous l'ouvrez, alors là, c'est la surprise. C'est très riche intellectuellement, c'est très dense, c'est exigeant même par moments, et c'est ce qui rend le livre très intéressant. Alors j'ajouterais quand même qu'il faut savoir que j'ai fait des petites recherches, Pierre Musso a écrit plusieurs fois sur l'industrie, l'imaginaire industriel en 2014, la religion industrielle en 2007, donc vraiment, c'est une question qui l'intéresse beaucoup. Alors moi, ce que j'ai retenu, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christian, c'est qu'il a vraiment, il cherche vraiment à montrer dans ce livre et même dans les précédents que l'industrie ne peut être réduite à sa dimension productive, à sa dimension économique, et qu'on ne peut pas le considérer juste comme un secteur d'activité comme l'ont fait Colin Clark et Jean Forestier. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante pour moi, celle que j'ai retenue, c'est que l'industrie, c'est en même temps à la fois une conséquence des changements scientifiques, culturels, sociaux, économiques, et en même temps une cause. Donc il place vraiment l'industrie au centre, au cœur du changement de l'économie et de la société. Et c'est pour ça qu'il dit, comme le disait Marcel Mauss, l'industrie est un fait social total. D'accord ? Et donc j'ai retenu une phrase, je vais vous la lire, parce qu'elle résume bien sa vision de l'industrie. L'industrie, c'est la société organisée pour produire et reproduire des biens et services, la société, transformer à grande échelle des matières premières par le travail collectif, l'idée de collectif dont a parlé Christian tout à l'heure, grâce à des connaissances, des sources d'énergie et des réseaux de communication. Donc vraiment, il place l'industrie au cœur de la société, bien au-delà d'être un simple secteur d'activité. Il dit encore que l'industrie construit et déconstruit la société.
Eh ben, dites donc, un livre petit mais costaud, comme on dit. On passe à votre choix, David Mouret, le livre de François Perel. Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, chez Duno.
Alors, François Perel, dans ce livre, il nous propose, donc c'est un ancien fonctionnaire, si j'ai bien compris, spécialiste de ces questions, il a écrit de nombreux rapports sur la place du travail, de l'emploi dans la société. Et pour moi, en fait, il actualise un débat récurrent. Et en paraphrasant Jacques Rueff, on pourrait dire, vous savez, Jacques Rueff avait dit, l'assurance chômage cause du chômage permanent. On pourrait dire que le bas niveau des salaires, c'est la cause d'un débat permanent. Donc, c'est un livre très documenté, très argumenté, mais qui est au service d'une conviction. Et la conviction de François Perret, c'est de remettre en question ce qu'il appelle cette disette salariale, qui s'explique par les causes qu'on connaît depuis longtemps, le ralentissement des gains de productivité, la tertiarisation, l'augmentation des taux de marge, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Il dénonce aussi un déni d'austérité salariale. Donc là, c'est encore autre chose. Ça veut dire que il ne comprend pas pourquoi on refuse autant de discuter clairement de l'évolution des salaires nets. Et pourquoi on a toujours cherché à augmenter les revenus des gens qui avaient des bas salaires en passant par la redistribution. Et en gros, ça marche pas bien. Donc lui, il dit, on peut et on doit discuter des salaires nets. Comme solution, il propose donc de renoncer à une revalorisation généralisée, ce qui serait intenable, d'augmenter le traitement des fonctionnaires, d'augmenter les revenus des jeunes en mettant en place une sorte de revenu de base, après ce sont les terminologies qui sont utilisées, d'augmenter les revenus des seniors et d'augmenter les bas salaires.
Ouais, enfin, ça fait quand même beaucoup de monde.
Voilà, c'est ça. Et c'est surtout le financement. Il veut poursuivre la baisse des cotisations sociales, mais on atteint quand même un très bas niveau depuis 93. Il veut réindustrialiser. Bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et il propose de travailler plus. Alors, pas forcément par jour, mais tout au long de la vie, ce qui nous ramène à la réforme des retraites. Donc, en fait, le compromis productif et en termes de travail qu'il propose, ben, on voit bien que ce n'est pas simplement une réforme du marché du travail conduisant à augmenter les salaires, mais c'est en fait une réforme du système productif dans son ensemble.
D'accord,
et moi, okay. La question que je me pose in fine, c'est est-ce qu'on peut faire ça en France sans le faire au moins en Europe ?
Christian Chavagneux.
Je pense qu'une bonne partie du livre aurait pu être écrit par Journalistes Alternatives Économiques. Parce que l'auteur pose comme prémisse quelque chose de très important. Il nous dit dès le début, le salaire, c'est pas simplement un prix de marché, c'est pas la rencontre d'une offre et d'une demande de travail, c'est un contrat social. C'est l'expression d'un rapport de force, de l'organisation d'une société, une entreprise et d'une société en général. Et ça, je trouve que c'est la bonne approche. Ensuite, il va développer, comme l'a bien dit David, le fait que il y a une véritable austérité salariale en France, et qui dure depuis longtemps. Une austérité salariale qui ne se voit pas lorsque vous prenez le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit, dont on nous dit et on répète souvent que c'est stable, mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'inégalités salariales. Et ces inégalités salariales, elles sont bien évidemment au détriment des plus petits salaires. Il y a une évolution structurelle qui se greffe à tout ça, qui est, vous savez, la disparition des emplois intermédiaires. Ouais. Un petit peu de gens vont monter, mais beaucoup de gens vont descendre. Donc, vous avez de plus en plus de gens qui se retrouvent dans cette austérité salariale, et il faut faire quelque chose contre. Et il nous dit attention, ça touche les gens du privé, ça touche les fonctionnaires, et quand on parle des gens du privé, regardez quand même, très souvent dans les classements, les entreprises françaises sont celles qui distribuent le plus de dividendes. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire dans la répartition de la valeur ajoutée. Et alors, la suite du livre, c'est tout un éventail de solutions possibles pour augmenter les salaires, puisque l'objectif, quand même, c'est de dire il faut répondre à cette austérité salariale. Et là, vous avez plein de choses. Alors, l'auteur nous dit coup de pouce au SMIC. Non, il ne faut pas de coup de pouce au SMIC. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, le SMIC est le seul salaire qui bénéficie des revalorisations avec l'inflation. Peut-être pas en ce moment, mais je ne serais pas du même avis de l'auteur quand il dit en général, on ne peut pas donner de coup de pouce au SMIC. Pas d'augmentation générale de tous les salaires, uniquement dans les entreprises qui peuvent le faire. Bon, ça paraît du bon sens. Et puis, plein de choses. Alors, pas de revenus, juste un revenu de base pour les plus jeunes, pas de revenu universel, de la RTT, pourquoi pas, mais faisons des expérimentations. Et à la fin, sa vraie réponse, c'est plutôt qu'il faut augmenter la productivité de chaque salarié, parce que le salaire, c'est la réponse à la productivité. Et là, il se contredit un petit peu avec l'approche du début. L'approche du début qui est institutionnaliste, le salaire n'est pas simplement une relation individuelle, c'est une relation sociétale. Et à la fin, il nous dit qu'il faut augmenter la formation des gens parce que c'est la formation qui donne la productivité, le salaire. Là, on est dans une approche néoclassique, je dirais un peu de base. Il essaie de tirer les deux fils et là, bon, je trouve qu'on perd un petit peu en cohérence. Néanmoins, le livre est très, très clair, très pédagogique.
Merci messieurs. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire du jour, Eva Jacquot, qui nous emmène au fil de la vie d'un trésorier payeur général.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Eva.
Bonjour Emmanuel.
Eva, vous ne nous emmenez pas très loin dans le passé, dans les années 1990, et vous nous parlez d'un livre qui a fait parler de lui lors de la rentrée littéraire, le livre de Yannick Haenel qui nous raconte l'histoire d'un trésorier payeur, fonction qui était donnée au comptable principal de l'État dans un département. Comment Yannick Haenel a-t-il eu l'idée de s'attacher à la vie d'un trésorier payeur ?
Eh bien, il y a quelques années, il a été invité à Béthune, dans le nord de la France, pour une exposition d'art dans l'ancienne succursale de la Banque de France. Il y découvre une maison, c'est l'ancienne maison d'un trésorier payeur qui était reliée à la salle des coffres de la banque par un tunnel. Alors, l'auteur se lance dans une enquête sur la vie de ce banquier, surnommé Georges Bataille, et il imagine sa vie, donc celle d'un banquier qui veut tout dépenser et tout donner. Alors, c'est un roman qui sonne comme une fiction qui retranscrit la pensée d'un écrivain homonyme du héros, Georges Bataille, auteur de La Part maudite, qu'il écrit en 1949.
Alors, c'est quoi la trame de cette histoire ?
Eh bien, avant de devenir banquier, notre héros, le trésorier Payard, c'est un jeune étudiant en philosophie dans les années 90, secrètement anarchiste, qui tombe littéralement amoureux de la banque lors de son premier jour de stage dans la Banque de France à Paris. Et il ressent tous les symptômes de la vocation. La banque, à ce moment-là, elle prend une connotation mystique et l'argent prend la place de Dieu. Je cite, « La porte de la Banque de France avait allumé dans sa vie un feu inattendu auquel il se devait désormais de rester fidèle, peu importe qu'il ne fût pas à sa place dans le monde de l'économie. » Alors, il abandonne la philo pour étudier l'économie en école de commerce. Et alors qu'il méprise l'argent, les banquiers et surtout toute forme d'enrichissement, eh bien, il devient l'un des leurs et il s'installe à Béthune. Et au fil de sa carrière, il va affronter les ravages de la fermeture des mines et de la pauvreté.
C'est un peu Rimbaud chez les capitalistes.
Oui, c'est vrai, ce livre raconte le panorama des années 80 jusqu'à la crise des subprimes, de l'emprise du néolibéralisme et de la spéculation financière sur nos vies. Georges Bataille dédie sa vie au bien, il s'inscrit contre le schéma traditionnel des banquiers. Il est d'ailleurs surnommé par un journaliste de La Voix du Nord, le bon samaritain de la Banque de France. Il accorde sa vie à ceux qui n'ont plus rien.
C'est quand même... Alors, une critique assez forte du capitalisme.
Oui, tout à fait. C'est un livre qui est nourri de références économiques. L'auteur mentionne par exemple les textes de Marx, de Proudhon, et il les associe alors à la philosophie, à la poésie, parce qu'on reste tout de même dans la littérature. Mais Bataille, notre héros, il voit le capitalisme comme une religion. Il le décrit comme impuissant à établir une égalité de l'argent. Pour lui, l'objet du capitalisme, c'est le profit. Et la part inavouable du profit, c'est la mise à mort des pauvres. Il fait aussi une critique des organismes de crédit. Alors, en définitive, ce livre, il pose la question de comment parvient-on à se soustraire au règne de l'argent, qui plus est quand on est banquier, et également de la notion de caritas, le fait de donner sans rien attendre en retour.
Bon, eh bien, un livre qui fera sans doute davantage le bonheur de notre ami Christian Chavagneux que de notre ami Jean-Marc Daniel pour ce week-end. Merci beaucoup, Eva. Et puis, on retrouve maintenant notre Globetrotter. Nous allons au-delà, bien au-delà des territoires du nord de la France, avec Benaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Benaouda, direction la Norvège, un travail fait par des chercheurs norvégiens sur, alors ça s'appelle Anatomie de la possession d'une voiture électrique en Norvège.
Alors, il n'y a aucun autre marché automobile au monde que celui de la Norvège où le basculement vers l'électrique s'est opéré aussi vite et aussi massivement. L'an dernier, 87% des véhicules neufs vendus dans ce pays étaient soit à batterie électrique, soit hybride rechargeable. C'est encore 15 points de plus qu'en 2020, avec même une proportion des trois quarts, à présent uniquement en batterie électrique. Une équipe d'économistes du transport à Oslo, sans lien avec les constructeurs, il faut le souligner, explique ici cette évolution très particulière en s'appuyant sur les données administratives du pays entre 2011 et 2017. Une spécificité socio-économique s'est répandue en aussi peu de temps à pratiquement l'ensemble de cette société norvégienne. 84% vivent en ville sur une population de 5,6 millions d'habitants. Alors les foyers avec enfants dont les parents avaient donc cette période 2011-2017 entre 25 et 44 ans et diplômés de l'enseignement supérieur vivant en banlieue d'une grande localité ont été les précurseurs vraiment de l'électrique dans ce pays. De proche en proche, c'est ce mode d'usage de la voiture qui s'est imposé comme pratiquement la norme. Il y a 5 ans déjà, 40% de ces acquéreurs avaient franchi le pas, alors que pour les ménages sans enfants, vivant dans une zone rurale ou semi-rurale, où l'on a entre 45 et 64 ans, donc c'est aussi affaire de génération, et ayant fréquenté uniquement le secondaire, la probabilité n'était tout au plus que de 2%. Avec un paramètre tout à fait clé, Si dans cette configuration, encore une fois socio-économique, il n'y a pas de péage sur la route entre votre domicile et le travail, l'achat électrique était quasi nul en 2017. Et puis, globalement, c'est un ménage norvégien sur deux qui est passé à l'électrique, qui a conservé une ancienne voiture thermique. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Autant dire une éternité dans ce cas de figure norvégien, dans un changement permanent. Quoi qu'il en soit, la lecture, on le voit ici, s'avère nettement plus complexe que la traditionnelle opposition entre riches des centres-villes et pauvres des lointaines périphéries.
Il faut dire qu'il y a eu des incitations fiscales nombreuses aussi pour inciter à passer à la voiture électrique. Direction l'Argentine, maintenant, Belaouda, un pays en feu, l'Argentine.
Oui, est-il possible de réduire les incendies forestiers? C'est le CESO à Buenos Aires, Centre d'études économiques et sociales Scalabrini-Ortiz, qui tente de saisir la disparition d'un million d'hectares en février dernier dans la province de Corrientes, qui est située au nord-est du pays, non loin du Paraguay. C'est un écocide qui s'est produit, des milliers de kilomètres carrés calcinés, des millions d'animaux tués, une faune gravement altérée, et puis la déstabilisation durable d'un tissu économique, des pertes d'emplois et de lourdes destructions de l'habitat, avec, nous expliquent ces chercheurs argentins, de graves conséquences sur la santé publique. À partir de là, on bascule dans l'économie, parce que ce rapport vise d'abord à recourir en prévention à l'outil fiscal. Comment ? Alors, eux ont conçu une idée d'un dégrèvement spécial sur les différents impôts fonciers et immobiliers locaux pour les propriétaires dans les zones où l'incidence du feu est élevée. Ce coup de pouce du fisc serait soumis à l'application et à la gestion de pratiques de conservation visant à sauvegarder les sols. Des antécédents de ce type dans d'autres régions du pays ont porté leurs fruits, notamment autour du delta du Paraná, le delta du Paraná qui comprend la province de la capitale. Cela amène aussi ainsi les propriétaires terriens vers une autre logique vis-à-vis de la culture du brûlis, surbrûlis, pardon. Donc on brûle les terres pour pouvoir cultiver ensuite. Mais cette incitation fiscale à ne plus incendier et à conserver donc les sols doit être compensée auprès des collectivités territoriales qui perdent des ressources. Ce qui ne va pas de soi, bien entendu, à court terme, étant donné l'état des finances publiques argentines. Les auteurs explorent alors de différentes options, étape par étape, mais qui doivent tendre, nous disent-ils, vers la création d'un fonds national dédié.
Et on termine avec le travail d'économiste russe Benahouda sur les défis de l'inflation en période de pandémie et de sanctions contre la Russie.
Alors, comme nous l'avons déjà abordé à différentes reprises dans la librairie de l'Écho, la recherche académique sur l'économie ne s'est pas entièrement paralysée à Moscou, soudainement, après l'invasion de l'Ukraine, avec des limites que vous concevez aisément. Mais vous pouvez ainsi vous référer, par exemple, à ce document collectif de chercheurs de la HSE, l'école russe des hautes études en sciences économiques, Natalia Akindinova, et ses collègues brossent d'abord un panorama mondial du phénomène de l'inflation pour aboutir sur les facteurs d'accélération des prix propres à leur pays. Alors le basculement s'est opéré, nous disent-ils, en novembre 2020 avec une hausse des prix, y compris dans le non alimentaire, malgré l'effet d'endiguement des tarifs réglementés par les pouvoirs publics, très important en Russie. L'État, à la veille des élections législatives de septembre 2021, soulignent les auteurs, a multiplié les versements et revalorisations auprès des retraités, des familles avec enfants et des militaires. De manière classique, l'indexation a alimenté la hausse des prix à une période où les restrictions à la mobilité de la main-d'œuvre a parallèlement beaucoup pesé, d'où un effet ciseau sur les prix. Et puis survient la guerre fin février 2022. Et là, c'est un épisode inflationniste d'une nouvelle nature qui s'est engagé. On a une description technique de l'action du Trésor, de la Banque Centrale, qui, somme toute, en très peu de temps, dès la mi-avril, sont parvenus à un retour du niveau de la monnaie au niveau d'avant ce que les auteurs appellent les événements en Ukraine. Mais ça n'empêche pas les économistes de la HSE d'établir deux scénarios pour 2023, pouvant se transformer en un choc inflationniste ou bien en une limitation, somme toute relative, entre 8 et 12 %. Beaucoup dépendra, nous disent-ils, de la vitesse d'élimination des ressources énergétiques russes d'Europe. C'est un point capital, nous disent-ils, et la difficulté du ciblage de l'inflation, en raison notamment d'un affaiblissement à venir, selon eux, du rouble, crée, je cite, des défis sans précédent pour le régulateur russe.
Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
David Mouret, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi le livre de Julien Damon, que vous recevez régulièrement,
« Frontières
du logement ordinaire », dans lequel il compare le logement et l'hébergement. Il nous montre que de plus en plus de catégories sont hébergées et non logées, parce que justement ça manque de logement. Et il nous dit que, je retiens ça, donc il a collecté beaucoup de données juridiques et financières, c'est une vraie démonstration. Il nous dit qu'en fait que la question de l'hébergement est très importante, qu'elle représente quand même 2% du PIB, 3% de l'emploi et 20% du parc HLM. Et que la question qui se pose, c'est comment en faire pour que les gens qui sont hébergés se sentent un peu plus logés.
Merci. Donc,
très facile à lire, vraiment.
Eh ben voilà, le dernier opus de notre camarade Julien Damon. Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui.
Toute petite étude de quelques pages aussi de l'ONG Finance Watch sur quelle est dans les 60 plus grandes banques mondiales la part de leurs actifs qui sont dirigés vers les actifs fossiles, qui vont perdre de la valeur. 1,5% seulement, mais vous savez, comme toujours dans le milieu bancaire, il suffit que de variations, même d'un tout petit pour montant des actifs pour que ça cause problème. Et si des fois on classait ces actifs fossiles dans les actifs vraiment très risqués, qu'on obligeait les banques à mettre du capital en face, ça coûterait combien? Ben en moyenne annuelle, en moyenne pour l'ensemble de ces 60 grandes banques, ce serait simplement 3 mois des profits de 2021, 6 mois et demi pour les banques françaises. Et attention, il y a une petite demi-douzaine de banques. Malheureusement, dedans, il y a des banques européennes et peut-être françaises, parce que c'est pas nommé, c'est pas du name and shame, c'est pas la même chose. Et pour lequel ça pourrait aller de 1 an à 3 ans et demi de capital qu'il faudrait mettre de côté. Là, ça coûterait très très cher. Attention quand même à ces actifs fossiles dans le système bancaire français et européen.
Merci messieurs. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.